Yann. Héloïse essaye de suivre Yann, mais il marche trop vite. D'ailleurs, il court plus qu'il ne marche, écartant les fougères et les lianes, coupant celles qui se placent en travers de son chemin d'un coup rageur de machette, bondissant de rocher en rocher sans prendre le temps de vérifier s'il écrase un pétroglyphe ou une pierre sacrée. Le gendarme trace une route dans laquelle elle s'engouffre pour ne pas le perdre de vue. Ils ont tous entendu le coup de feu, il y a moins de 5 minutes. Une détonation sèche, tirée à quelques centaines de mètres de la pension, au-dessus, dans la forêt. Tous se sont immédiatement regroupés sur la terrasse. Tanae est sortie de la cuisine, alors que Poé et Moana remontaient en galopant du champ. Installée dans la salle Maeva, Héloïse a cessé de lire, et Maïma a coupé les écouteurs de son lecteur MP3. Yann a surgi, téléphone encore à la main. Seuls manquaient Clem et Marie-Ambre. « Aucun marquisien ne chasse aussi près de la pension », a affirmé Tanae, pendant que Poé et Moana se blottissaient contre elle. Yann a regardé dans la direction de l'explosion. Tout droit, plein nord. « J'y vais !» Il a ordonné à Maïma de ne pas le suivre, de rester avec Tanae et ses filles, même si la jeune marquisienne l'implorait de ses grands yeux inquiets. Tanae, l'Enata à l'envers. L'ennemi. « C'est ici que tu seras le plus en sécurité !» a pourtant assuré le gendarme. Le temps qu'il s'arme de la machette de coupeur de copra pendue dans la cuisine, Héloïse l'avait suivi. « J'y vais aussi. Aucun d'entre nous ne doit rester seul. Jamais !» Yann n'a rien répondu. Ni non, ni oui. Il est parti. Yann continue de progresser dans la forêt. Il a rejoint un premier tiki, celui à la couronne et aux bijoux, témoin muet à l'œil unique que le gendarme ne prend pas le temps d'interroger. La détonation venait de plus haut, quelques dizaines de mètres au-dessus, là où la pente devient plus douce, creusée en 3 terrasses, vestige d'un ancien méhaé dont il ne reste que des dalles volcaniques grossièrement posées et recouvertes de mousse. Là où ont été installés les 2 tikis aux 20 doigts, celui des arts caressant sa plume et celui de la mort étranglant un oiseau. Le gendarme tranche le dernier rideau de liane de banyan occultant la scène du méhaé. La plateforme sacrée s'ouvre devant lui, reconquise par la nature. Sombre, humide, simplement éclairée de quelques traits de lumière qui percent la canopée comme les poursuites d'un théâtre de verdure. La Commedia diva oa. Yann gravit en 2 pas les hautes marches des 2 premières terrasses. Il se fige sur la 3e. Il les voit. Veillés par les 2 tikis gris, allongés à leurs pieds. 2 corps, sans vie. Leur assassin n'a pas pris le temps de leur planter une aiguille dans le cou cette fois. Il s'est contenté d'un meurtre plus radical, tout aussi brutal. 2 coups de fusil. L'un a frappé Farain en pleine poitrine, lui explosant le cœur. L'autre a fauché Marie-Ambre de dos, perforant ses poumons. Des traînées de sang écarlate rougissent les pierres grises du méhaé, comme elles n'en ont pas connu depuis des siècles. Comme si, après des années de privation, elles réclamaient d'être nourries à nouveau de chair sacrifiée. Héloïse a rejoint Yann. Elle se tient à côté de lui, cheveux libérés, fleurs de tiare sur l'oreille envolées. Elle fixe, épouvantée, les cadavres de Farain et Marie-Ambre. Titube, ne dit rien. Se retient de s'enfuir. Une bile acide inonde sa gorge. Se retient de vomir. Sans réfléchir, elle prend la main de Yann. Sa machette pend au bout de son bras. Du dos de Marie-Ambre, un filet rouge coule lentement sur la dalle, rejoignant un sillon dans la roche. Une invisible gouttière que d'ingénieux prêtres marquisiens ont dû creuser jadis pour faciliter l'écoulement du sang des victimes.
Elles
viennent d'être assassinées ? Demande Héloïse. Marie-Ambre. Marie-Ambre seulement. Farain est morte depuis plusieurs heures. Depuis cette nuit sûrement. Héloïse détaille la peau blafarde du visage de la commandante danoise, la croûte de sang noir à hauteur de son cœur. Puis ses yeux se posent sur les 2 tikis qui gardent les corps avec la même solennité. Celui de droite l'hypnotise. Elle sent qu'il assiste à la scène avec un plaisir sadique. Elle sent les os brisés de l'oiseau étranglé par les 20 doigts de pierre. Elle sent les écailles froides du serpent qui ondule des pieds au cou de la statue sacrée. elle sent son mana, celui de la mort. La main de Yann se crispe sur le manche de sa machette. Sont-elles toutes condamnées? Le sang ne cessera-t-il de couler que quand toutes auront payé? Yann a fait un pas en avant. Héloïse le suit, ne lâche pas sa main. Ils avancent, tels deux amants maudits, vers un autel sacrificiel. C'est l'image qui vient à Héloïse. Une cathédrale de verdure, des vitraux de mangue et de coco, et la vie devenue tapou. La mort pour seule purification. Lavée de tous ses péchés. Elle repense à Nathan et Lola. Pourront-ils un jour lui pardonner? Yann lâche sa main. Il s'accroupit, comme s'il priait, implorait les dieux marquisiens, comme s'il laissait lui aussi le mana de la mort l'imprégner. La lame de sa machette touche la pierre, une ultime façon de l'aiguiser, avant qu'elle ne fende l'air, qu'elle ne tranche à son tour la chair. Yann, doucement, pose l'arme blanche sur la pierre grise. Regarde. Une feuille de papier est coincée sous la poitrine rouge de Marie-Ambre. Héloïse se penche à son tour. Elle manque de tituber. Elle a résisté à la mort, elle a résisté au sang. Mais elle s'effondre devant l'encre. Elle vomit à ses pieds. Yann s'écarte, fait glisser la feuille et la tient par le seul coin qui n'est pas imbibé de sang. Héloïse relève le bas de son t-shirt jusqu'à sa bouche. Elle n'a aucun mouchoir, pas même une manche pour essuyer le goût de gerbe sur ses lèvres. Nombril et soutien-gorge dévoilés. Elle s'en fiche. Yann ne lui adresse d'ailleurs aucun regard, concentré sur les lignes écrites à la main. La sienne. Yann tient entre ses mains son testament.